Bonjour, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Étant donné que nous sommes à quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, de la date limite pour faire votre déclaration d'impôt, si vous êtes parmi ceux qui sont dernière minute, c'est le cas de le dire, ben, on vous propose en première heure d'émission une espèce de clinique impôt. Clinique impôt dernière minute avec notre comptable professionnel agréé, fiscaliste, qui a écrit le livre « Réduisez vos impôts », André Boulet, qui est avec nous ce matin. Bonjour André.
Bonjour Isabelle.
Alors, on sait que la date limite, c'est le 30 avril à minuit moins une qu'on a pour envoyer notre déclaration d'impôt. Et c'est fascinant de voir que chaque année, j'ai vérifié à peu près à pareille date l'année dernière, il y avait environ 35% des gens qui n'avaient toujours pas produit leur déclaration d'impôt. André, vous diriez qu'en ce moment, là, à quelques jours de la date limite, vous évaluez qu'il y a combien de gens, d'après votre expérience terrain, là, qui n'ont pas encore produit leur déclaration d'impôt?
Je vous dirais que ça chiffre facilement à 20 % aujourd'hui là, des gens qui n'ont sûrement pas produit leur déclaration fiscale. Même dans certains cabinets là, comptables, la période la plus intensive de transmission par voie électronique se fait dans la dernière semaine.
Là. Fait qu'il y a donc, pas mal plus de monde qu'on pense qui attendent, qui sont retardataires ou qui payent carrément en retard.
Effectivement, parce que il y a des gens qui se soucient pas de ça, puis ils entendent une émission comme la vôtre, ou puis là, c'est vrai, il faut que je fasse une déclaration fiscale. Alors donc, souvent, ça va les réveiller. Phénomène aussi, cette année, on a eu Pâques qui est tard cette année. C'est une fin de semaine souvent très active au niveau des déclarations fiscales. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont attendu tardivement. Ça, c'est un des phénomènes. Il y a un autre phénomène important, c'est la réception des feuillets qui se font de plus en plus tardivement dans le cas des gens, surtout qui ont des revenus de placement. Ils reçoivent, la semaine dernière, un de mes clients recevait un reçu REER. On était le 16 avril. Donc, il y a aussi ce phénomène-là où les gens savent que leur feuillet arrive tardivement et donc retarde l'envoi des documents parce que s'ils produisent avant, ben, ils vont avoir des correctifs à effectuer.
Exactement. Il y a même des gens là, qui m'écrivaient la semaine dernière qui me disaient qu'ils n'avaient pas reçu leur T4 encore. Ça, c'est carrément leur feuillet de revenu d'emploi. Là.
Oui.
Il y a des employeurs aussi qui sont en retard. Là.
Ben, en fait, les employeurs ont maintenant la possibilité de remettre le feuillet à l'employé via un courriel sécurisé, évidemment, à votre adresse, pour remettre. Donc, il n'envoie plus le feuillet. Et ça, ben les gens pensent qu'ils n'ont pas reçu, mais finalement, ils sont dans leur dossier employé. Faut faire attention. De plus en plus, ce phénomène-là aussi est présent parce qu'il y a plusieurs institutions financières aussi qui n'émettent pas nécessairement les feuillets T5 ou T3 là, pour les gens qui ont des fonds communs de placement automatiquement, surtout si vous avez demandé que la communication avec votre institution soit faite de façon électronique.
Oui. André Boulet, je disais qu'on allait être dans le pratique en cette première heure d'émission. On va proposer aux gens qui nous écoutent et qui sont parmi ceux qui n'auraient peut-être pas encore fait leur rapport d'impôt de poser des questions. Et de toute façon, ce sont des questions aussi qui peuvent être soit spécialisées, soit générales. Même ceux qui l'ont fait, le rapport d'impôt, vous pouvez toujours aussi en apprendre d'ici à mardi et faire des corrections s'il y a lieu. Pour nous joindre, vous pouvez faire dans la grande région de Montréal, le 514-790-9850 et sans frais partout au Québec. Vous nous joignez en faisant le 1-866-790-9850. Notre comptable va pouvoir répondre à toutes vos questions en ce qui concerne les impôts. Une chose qu'on peut dire, André Boulet, c'est que s'il y a une chose qu'il faut éviter, c'est de payer en retard. Quand on sait là, qu'on doit payer des impôts, il vaut mieux de toute façon envoyer un certain montant. Comment on fait là pour ceux qui savent qu'ils vont être en retard, qui ont de l'impôt à payer? Quelle est la meilleure façon de procéder?
Ben, en fait, la façon que les pénalités sont calculées, c'est sur un solde dû. Et là, faut faire attention parce qu'on sait qu'il y a des contribuables qui sont travailleurs autonomes et la date statutaire de production de leur déclaration fiscale sans qu'il n'ait de pénalité est reportée au 15 juin. Alors que les gens qui n'ont pas de revenus de travail autonome, ben eux, c'est le 30 avril. Il faut dire que pour les gens aussi...
OK, mais ça, c'est important. Donc, ça veut dire que si vous êtes travailleur autonome, vous nous écoutez, puis là, vous dites, bon, là, je suis en retard. Ils ont, ces gens-là, jusqu'au 15 juin avant de payer leur portion d'impôt, par exemple.
Bien, en fait, pour qu'il n'y ait pas de pénalité.
Pour sans pénalité. On va
voir que les intérêts vont commencer à courir, cependant.
À partir du 30 avril.
Exact. Quand je parle du travailleur autonome, il faut aussi savoir que le conjoint ou conjointe de fait de ce travailleur autonome-là a aussi sa date statutaire, même s'il est salarié, reportée au 15 juin.
Oh.
Donc, si vous êtes travailleur autonome, votre conjoint a un emploi, ben lui, comme il est conjoint ou conjoint de fait avec vous qui est travailleur autonome, ben sa date statutaire vient de passer du 30 avril au 15 juin également.
Mm-hmm. Alors, c'est intéressant. Donc, beaucoup de gens qui ignorent ce fait-là.
Oui, mais les enfants, eux, si vous avez des enfants à charge ou des enfants qui ont travaillé, qui doivent produire une déclaration fiscale, eux ne sont pas, leur date statutaire n'est pas reportée au 15 juin.
On reviendra sur la question des conjoints de fait et de la fiscalité, de la comptabilité, André Boulet, parce que les gens l'ignorent peut-être, ou en tout cas on le soupçonne pas autant que ça l'est dans la réalité, mais les rapports d'impôts sont très liés hein, quand on est avec quelqu'un et il y a des impacts mutuels l'un sur l'autre. Là. On l'oublie ça, mais effectivement. Donc on va y revenir. On a d'abord Marie là, qui nous appelle. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Isabelle.
Vous avez une question pour André Boulet?
Oui, j'ai une question. C'est concernant les frais de scolarité versus la prime au travail. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le gouvernement n'encourage pas la scolarité? On dirait, en faisant la déclaration, si l'étudiant avait un petit boulot, disons un petit boulot à côté de sa scolarité, un petit boulot de 5 000, en faisant sa déclaration, on a obtenu un remboursement, exemple, de 900 $. En intégrant les frais de scolarité dans la déclaration, ce petit remboursement devient plus petit. Comment on peut expliquer ce phénomène?
C'est une bonne question, André.
En fait, la politique sous-jacente à la prime au travail, c'était de réintégrer les gens qui étaient au chômage ou qui étaient sur l'aide sociale à favoriser cette intégration-là en leur permettant d'avoir un supplément de remboursement pour pallier certains frais qui étaient assumés par l'État lorsqu'ils étaient sur l'aide sociale, par exemple, ou au chômage. Donc, théoriquement, c'est le but visé par le législateur. Ce qu'on s'est aperçu, en fait, le législateur s'est aperçu, c'est qu'il y avait des enfants qui travaillaient l'été, de parents qui avaient quand même un bon revenu et se retrouvaient à avoir la prime au travail. Et le législateur a dit, ben c'est pas l'objectif qu'on vise. L'objectif qu'on vise, c'est de remettre les gens au travail. Et donc, ils ont décidé que les étudiants qui étaient à temps plein ne pourraient plus bénéficier de la prime au travail. Il y a eu une certaine période où, au Québec, on pouvait en bénéficier. Maintenant, autant au fédéral qu'au provincial, on ne peut pas bénéficier de la prime au travail. Et c'est une question de politique fiscale. Est-ce que c'est équitable ou pas?
Ouais.
C'est discutable, là, mais techniquement, ça peut léser peut-être des étudiants qui sont moins fortunés et qui veulent travailler pour payer leur
Ben oui, c'est un fait.
Leur prêt de scolarité.
Ouais. Bonne question, Marie. Merci beaucoup. Sylvie nous appelle. Bonjour, Sylvie.
Oui, bonjour. Tout le monde va bien?
Oui, vous-même.
Alors, ma question, je m'apprête à poster, vraiment par la poste, mes deux déclarations d'impôts. Et concernant le paiement, j'aurais un petit chèque à joindre à chacun des deux. Puis, en regardant, il ne semble pas qu'on puisse envoyer un chèque. On doit le payer soit directement à la banque ou quelque chose comme ça. Ai-je bien vu?
André, là-dessus, peut-être. Ça, c'est intéressant parce que Sylvie nous permet de parler du fait que de plus en plus de Québécois utilisent Internet pour envoyer leur déclaration d'impôt et leur versement également. C'est amusant que vous le fassiez par la poste encore, Sylvie, mais il y a effectivement à peu près quoi 15-20% des gens, peut-être même moins, je pense, André, hein, maintenant qu'ils le font par la poste.
Oui, effectivement, parce que presque tout le monde est rendu par un système Internet. Ce qu'on appelle la TED, là, le transfert électronique de données. Mais en fait, je ne sais pas où vous avez lu cette information-là. Je ne sais pas si c'est sur l'agence, Normalement, on peut mettre un chèque dans l'enveloppe pour faire le paiement avec évidemment la déclaration fiscale. Parce que il y a plein de gens là qui paient leur déclaration. En fait, nous, on fait le traitement électronique de données. On y a un coupon de paiement, puis les gens font des chèques et on poste ça. Alors, il y a comme trois façons là d'acquitter. Okay. Donc, on va aller payer via un chèque notre déclaration fiscale. On peut le payer au guichet, soit au guichet électronique ou au guichet bancaire. Là, par exemple, il faut faire attention, ça va prendre un coupon que les autorités fiscales ou votre logiciel va émettre là pour faire le paiement. La troisième possibilité, c'est via courriel, en payant directement, se créant un fournisseur qui est l'Agence de revenus du Canada ou l'Agence de revenus du Québec, mm-hmm. auquel on va aller verser le montant ou par virement directement au gouvernement. La seule chose qu'il faut faire attention quand on fait ces paiements-là de façon électronique, c'est de choisir la bonne année. Et ça, je vois beaucoup de gens qui font l'erreur de cette façon-là, parce que là, on est rendu en 2019, et là, on nous propose la possibilité de faire un acompte provisionnel ou un paiement en 2019. Alors que là, on est en train de régler un solde à payer de l'année 18.
Oui, donc trompez-vous pas, personne, c'est 2018. Vous ne payerez pas vos impôts en avance.
C'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'il va se retrouver comme un acompte pour l'année prochaine.
Ouais.
Et il va recevoir un avis avec des intérêts disant que vous n'avez pas payé vos impôts.
Oui, tout à fait.
Donc, ça occasionne des problèmes.
Et peu importe la façon dont on choisit de payer, André, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui fait foi, là, c'est la date, hein, c'est le 30 avril. Est-ce qu'il faut qu'on ait une preuve qu'on a payé nos impôts en cette date-là ou plus tard? Parce que si, par exemple, le gouvernement reçoit les fonds le 2, 3 ou 4 mai, est-ce que l'intérêt commence à courir sur ces journées-là?
Théoriquement, oui. Mais il y a une petite période de grâce où il n'y aura pas d'intérêt, là, habituellement, sur la période de, je pense qu'il laisse 3 jours ou 5 jours de grâce pour l'encaissement. Ce qui est important pour pas qu'il y ait de pénalité, c'est que si vous le postez, ben l'oblitération est importante de savoir que vous l'avez mis à la poste le 30. Oubliez pas que si vous êtes près d'un guichet de Revenu Canada ou Revenu Québec, vous pouvez aussi aller déposer directement, même en dehors des heures d'ouverture, ils ont des guichets, puis même on prolonge souvent la période le 30 avril d'ouverture pour que les gens aillent déposer leur paiement ou leur déclaration fiscale.
Ouais,
Alors là, on évite le délai de poste. Là.
La pénalité de retard, si on dépasse le 30 avril, c'est 5 % du montant qu'on doit, c'est bien ça?
Exact.
Ouais, après ça, ils rajoutent...
C'est 1 % par mois de retard. Et ça, c'est la portion pénalité. Et il y a la portion intérêt qui embarque également. Alors là, présentement, on parle au niveau fédéral d'un taux qui est de 6 % du solde dû.
Quand même.
Et au Québec, c'est 7 % Et au Québec, il faut faire attention, c'est un intérêt composé quotidiennement. Ce qui nous ramène à peu près à un taux de 14 % ou pas loin de ça.
Oui, parce qu'on paye des intérêts sur des intérêts, finalement.
Oui. Ouais. Et si vous avez
on
est rentré à 17 %. Là.
Ah, mon Dieu. OK. Fait qu'on a, je pense qu'on a compris qu'il faut éviter de payer nos impôts en retard. On va s'arrêter ici. Tout de suite après la pause, on a plein de gens qui veulent intervenir, poser des questions à notre comptable professionnel agréé. André Boulet est avec nous. Il a, entre autres, écrit le livre « Réduisez vos impôts 2018 ». C'est une version que vous pouvez aller vous procurer où il y a, bien sûr, tous les détails par rapport à cette année fiscale en particulier, parce que chaque année fiscale nous réserve des surprises. C'est la beauté des gouvernements. Ils nous sortent toutes sortes d'affaires. Juste comme on commence à comprendre les choses, pouf, ils nous enlèvent quelque chose, ils nous ramènent autre chose. C'est pour ça qu'on a des experts comptables comme André. Tout de suite après la pause, justement, on aura l'occasion de passer à travers ces nouveautés pour 2018 et bien sûr, vos questions et commentaires, 514-790-9850. S'il y en a qui ont des questions par rapport à, ou plutôt qui ont vraiment tout le temps tendance à payer en retard, moi, je suis curieuse, pourquoi? pourquoi on le fait? C'est parce que ça fait mal en bout de ligne puis qu'on se dit, tu sais, c'est comme t'évites quelque chose qui te fait mal au cœur puis mal au portefeuille, fait que tu fais comme si ça existait pas, mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Faut bien payer. Si on y a une chose qu'on sait dans la vie, vous le savez, on le dit en cœur, c'est quoi? La mort et les impôts. Hey boy! 1-866-790-9850 pour nous joindre partout au Québec et 514-790-9850 pour nous joindre dans la grande région de Montréal. À tout de suite, tout le monde. Alors, on parle ce matin avec André Boulet, qui est comptable professionnel. Il est fiscaliste également parce que c'est le compte à rebours qui est commencé là, pour votre déclaration d'impôt. Pour ceux qui font partie du 20 % à peu près de gens qui ne l'ont pas encore produite, évidemment, il y a des questions d'urgence là, qui se posent. Et pour tous ceux qui l'ont déjà produite également, il peut y avoir des modifications possibles à apporter une déclaration d'impôt, n'est-ce pas, André? On peut toujours en apprendre et demander des ajustements. Il n'y a comme pas de date pour ça, là.
Non. On peut toujours, dans ce qu'on appelle la période de prescription,
ouais.
On a 3 ans de l'avis de cotisation, de la date de l'avis de cotisation pour demander des modifications d'un oubli ou d'un revenu qu'on aurait omis de déclarer, là. C'est possible de toujours modifier la déclaration.
Et il y a des gens qui ont des craintes par rapport à ça. Ils ont peur que ça soulève d'autres des pans de leur revenu ou de leur situation financière ou de se faire, par exemple, analyser le dossier sur plusieurs années. Comment les gouvernements, comment que ça soit Revenu Québec ou que ça soit l'Agence de revenus du Canada, comment ils perçoivent ce genre de modifications faites après coup?
Ben, c'est pas automatique que si vous demandez, par exemple, un changement parce que vous avez omis de mettre vos frais médicaux ou un frais médical important, de toute façon, vous allez avoir une preuve à produire de ce changement-là. Donc, ça n'engagera pas nécessairement une vérification de votre déclaration complète. Maintenant, il y a peut-être des choses un peu plus sensibles lorsque vous modifiez, par exemple, le revenu que vous avez eu, surtout pour les travailleurs autonomes. Ça peut-être, dépendamment là, de l'origine du problème ou du montant, ça peut-être être un petit peu plus regardé par les autorités fiscales. Ouais.
On a Nathalie qui est avec nous. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Isabelle. Bonjour, M. Boulet.
Bonjour.
C'est pour une question concernant des revenus de prêts et bourses. Ma fille a un travail, elle était étudiante à temps plein aussi au cégep.
Mm-hmm.
Et elle a reçu, j'essayais de faire ses impôts hier, puis j'étais bien embêtée. Elle a reçu un relevé 1, accompagné d'un T4A pour ses revenus de prêts bourses. Et puis là, je ne savais pas du tout où les mettre, parce que mon relevé 1, il dit que c'est des relevés, c'est des revenus d'emploi, emploi, puis revenus divers. Et quand tu regardes le T4A, c'est vraiment des revenus de pension. Alors là, je ne savais pas du tout la mettre. Puis quand je regarde les impôts de l'an passé, le montant qu'on avait rentré au provincial, du moins, de ces revenus de prêts et bourses, on l'avait déduit à une ligne, je pense à la ligne 275. Puis là, hier, j'essayais de le faire, puis ça ne réduisait pas. Et ça me rentrait un montant à la ligne 130 au niveau fédéral. Fait que là, je suis tout mélangé.
En fait, les prêts et bourses, ça dépend du type de prêts et bourses que votre étudiant ou votre enfant a reçu. La majorité des prêts et bourses sont exemptes d'impôts.
Oui, c'est ça. Ça s'appelle revenu prêts et bourses parce que est-ce que c'est considéré comme un revenu?
Ça peut être dans certains cas, si c'est pas relié comme tel à l'étude, aux études. Par exemple, vous recevez une bourse pour, faire de la recherche.
Ah oui,
là, ça peut être considéré comme un revenu imposable. Alors que là, la mécanique fait en sorte que le revenu va être inclus pour fin de calcul de certains avantages sociaux. Alors, donc, on va faire une inclusion au revenu et pour calculer, par exemple, le crédit de TPS, le crédit de solidarité, ben on va en tenir compte. Cependant, lorsqu'on va calculer le revenu imposable, il va être redéduit. Alors, ça semble être ça que vous empêche, là. Alors, donc, c'est normal que ça soit comme ça parce que ce qu'on veut faire au niveau des calculs, par exemple, des frais médicaux, des taxes, des remboursements de taxes, c'est qu'on le considère comme un revenu, mais au fin de l'impôt, il n'est pas imposable. Donc, il va avoir une entrée et une sortie dans votre déclaration fiscale et c'est normal.
Oh mon Dieu,
c'est ce que je ne voyais pas hier quand je le faisais. Tu sais, on avait comme revenu total. Puis là, il diminuait le montant du prêt bourse. Il nous donnait le résultat qu'il nous disait, relevé net, là. Mais là, il ne l'a pas dit hier. Fait qu'à quelle ligne je le rentre? Est-ce qu'il faut que je le rentre dans des revenus de pension ou dans des revenus...
Habituellement, c'est la ligne 130 au fédéral là, que vous devriez voir apparaître cette source-là. Il faut faire attention là, au fédéral. Okay. Des fois, il n'apparaît pas du tout, là, dépendamment du type de bourse qu'il est.
Mais bon courage, Nathalie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein? C'est quelque chose. On a Martin qui est avec nous. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour. En fait, j'appelle juste pour savoir, tantôt, vous étiez sur le point de dire comment envoyer un paiement à l'avance avant d'envoyer le revenu d'impôt.
Oui,
finalement, j'ai pas bien compris la réponse.
Oui, en fait, c'est ça, André, en début d'émission, on disait, est-ce que c'est si on sait qu'on a de l'argent qu'on doit, là, qu'on a un dû au gouvernement, que ce soit au Québec ou au fédéral, est-ce qu'il vaut mieux si on n'a pas le temps de faire toute notre déclaration d'impôt avant le 30 avril 23h59, hein, c'est ça la date limite, est-ce qu'il vaut mieux envoyer un montant, là? On sait, mettons qu'on doit, je dis n'importe quoi, 2 000 $. Est-ce qu'il vaut mieux l'envoyer tout de suite sans même avoir fait sa déclaration d'impôt en disant, au moins, ils auront mon argent et puis je vais limiter les dégâts. Est-ce que c'est possible, ça?
Oui, c'est possible de faire ça. En fait, tu sais, la loi, elle dit... C'est le solde que vous avez à payer au 30 avril. Alors, si vous avez fait un dépôt de 2 000 $ dans ton exemple, ben là, puis qu'il y avait 2 000 $ d'impôts à payer, on a fait un estimé, puis ça arrive à ce qu'on pense qu'on avait à payer, ben techniquement, il n'aura pas de pénalité parce que j'avais pas de solde dû. Si j'ai mis 2 000 $ puis ça monte à 2 500, j'aurai une pénalité seulement sur le 500 $ ainsi que les intérêts sur le 500 $. Donc, dans l'alternative où je ne peux pas produire ma déclaration fiscale, je vais tenter d'estimer le plus près possible le montant qui serait dû et je peux envoyer un chèque autant au fédéral qu'au provincial en indiquant bien que c'est un acompte sur l'impôt 2018.
Mm-hmm. Parce que je lisais aussi que si on ne peut pas payer la totalité du montant qu'on doit, on doit quand même produire sa déclaration d'impôt à temps. Comme ça, on va économiser sur les pénalités de production tardive, en fait.
Oui, exact.
Donc, dans les deux cas, vous vraiment regarder qu'est-ce qu'on. Si on doit de l'argent, ben on essaye de l'envoyer si on l'a. Après, l'autre problème, je veux dire, hier, on a parlé pendant une heure du fait que les gens étaient à peu près à 200 $ de l'insolvabilité. En tout cas, c'est la situation d'un Québécois sur deux, là, à la suite d'un sondage qui a été fait ces derniers jours. Les gens au Québec ont beaucoup de dettes. Des fois, tu as ton rapport d'impôt, tu t'évalues, puis tu te dis, bon, ben là, je dois 3-4 000 $. Pas évident de l'avoir, là. Qu'est-ce qu'on peut faire, André, dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut aller voir?
En fait, ce que vous pouvez faire, c'est de produire et de ne pas payer. Et si vous avez produit, vous venez de sauver au moins la pénalité de 5 % autant au fédéral qu'au provincial. Mm-hmm. Et si ça prend un délai plus long pour produire, ben il y a 1 % de pénalité par mois qui s'ajoute à ça. Et ça pourrait même être plus, là, dépendamment des situations. Donc, c'est mieux de produire, même si on ne paie pas. Parce que là, on vient de sauver notre pénalité. Et à l'inverse, si on a les sous, mais on n'a pas le temps de produire, ben on est mieux de payer pour stopper cette pénalité-là. Mm. Et ensuite, on produira notre déclaration fiscale.
Le pire, c'est de rien faire, de se mettre la tête dans le sable.
Exact.
Exactement. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient. Il y a Diane qui a une question sur les REER. Je pense que ça va toucher beaucoup de monde aussi. Si vous voulez nous joindre, poser des questions à notre comptable André Boulet, vous faites le 514-790-9850. Sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850. C'est une clinique aide à vos impôts. À tout de suite, tout le monde. C'est la clinique Impôts Isabelle pour vous aider le 30 avril à 23h59. Ce sera le moment fatidique pour appuyer sur votre bouton « Envoyer ». Si vous envoyez votre déclaration via Internet, comme à peu près 85 % des Québécois le font aujourd'hui, c'est devenu très populaire. Évidemment, beaucoup de gens qui continuent de m'écrire là, par rapport à où est-ce qu'on paye. On l'a dit tout à l'heure, André Boulet, mais je pense qu'on peut répéter. On paye soit qu'on aille voir notre banque, qu'on ait le tampon de la banque qui fait foi là, de la date. On peut le faire également, bien sûr, par Internet directement à partir de notre compte personnel, hein, en rajoutant donc un bénéficiaire, et c'est très simple de le faire comme ça. D'autres façons, on peut l'envoyer par la poste, on a dit aussi, en mettant ministère du Revenu du Québec et Agence de Revenu du Canada. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Je pense qu'on a tout couvert.
Il y en a que s'ils ont le coupon de paiement ou un coupon de paiement identifiant leur nom, le numéro d'assurance sociale, ça peut être aussi déposé au guichet. Là.
Voilà. On a Diane qui nous appelle. Bonjour Diane, vous avez une question en ce qui concerne votre REER.
Oui, les fameux REER.
Oui.
Bon, j'ai effectué un retrait de REER de 2500. La banque m'a enlevé immédiatement 21%, qui me restait environ 1700 quelque chose. Mais ma comptable a fait mes impôts, puis j'ai vu qu'elle a ajouté à mes revenus 2500 au lieu de 1721. On ne paye pas en double?
Non, parce que, en fait, ce qui est inclus au revenu, c'est pas le montant après déduction des impôts, c'est le montant brut toujours. Alors, par exemple, un salarié qui gagnerait, je sais pas moi, 50 000 $ il paie 10 000 $ d'impôts et de régime de rente. On rentre pas 40 000 $ de revenus nets, mais on rentre le montant brut de 50 000 à titre de revenu d'emploi. Donc, dans le cas du REER, c'est un peu le même principe. Ce que vous devez inclure à votre revenu, c'est le montant brut que vous avez reçu, 2 500 $ Et au moment où elle va avoir calculé les impôts, les sommes qui ont été retenues par la banque vont être comme un acompte qui a été fait sur l'impôt ou le solde à payer. Et c'est là que va faire l'ajustement. Alors, si vous en ont trop déduit, ben les autorités fiscales vont vous rembourser. Et si il n'y en avait pas assez de déduit parce que vous aviez d'autres sources de revenus, ben là, le résiduel sera payable à ce moment-là. Mais ce qui a été fait est correct.
OK.
C'est correct. Bon, ouais. Bien, je vous remercie beaucoup.
Bien, ça fait plaisir, Diane. Valérie, bonjour.
Bonjour, bonjour. Je vais faire vite. Écoutez, moi, j'ai un garçon qui a 11 ans, qui est travailleur autonome. On était exactement dans la situation que vous avez parlé précédemment. Là, on n'a pas eu le temps de faire les impôts parce qu'on était trop occupés. On envoyait de l'argent au gouvernement. La situation qu'on vient de constater maintenant, vu qu'on n'avait pas fait nos rapports d'impôts, les prélèvements qui étaient envoyés au REER pour mon garçon ont dépassé la limite permise. Je sais qu'on a une limite de 2000 $ qu'on peut contribuer par-dessus notre maximal. Si malheureusement dans le compte de REER, il a été injecté, mettons, comme 1000 ou 1500 $ de plus, comment on fait pour se sortir de cette situation-là?
Ben, en fait, là, vous allez. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait 11 ans?
Oui, c'est enfant? Ça. Je voulais ouais. pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, Valérie?
Oh, c'est un comédien. C'est
ouais,
un petit comédien.
C'est, ça, je m'en doutais. Un petit comédien. Okay. Ouais, ouais. C'est le fun, ça.
Bien sûr qu'il y a des droits de REER. Parce qu'habituellement, c'est à l'âge de 18 ans que ça commence, là.
Pour les comédiens, il semblerait que non. Là. Il y a un REER du côté de l'UDA. Un REER
avec l'UDA, c'est automatique, c'est ça.
OK, ouais. C'est le régime de pension agréée.
La production a versé des REER, mais nous, comme on n'avait pas fait notre comptabilité, ben on n'a pas vu que le montant dans le compte voguait, puis à un moment donné, a dépassé la limite. Alors là, qu'est-ce qu'on fait?
En fait, lorsque vous allez recevoir votre avis de cotisation, en principe, les autorités fiscales fédérales, parce que c'est le fédéral qui gère tout ce qui est REER, va vous dire que vous êtes en surcontribution. Donc, cette surcontribution-là, vous devez la sortir du régime. Et là, il y a un formulaire, ou en fait, il y a des formulaires à compléter, qu'on appelle les T-32, et qui vont être envoyés en premier lieu aux autorités fiscales qui vont, en fait, autoriser ce transfert-là. Et ensuite, vous allez envoyer ça à la personne qui détient le REER pour qu'il rembourse la somme à votre garçon.
OK. Est-ce qu'il y a des pénalités qui vont être attachées à ça? Ou...
Il peut y avoir une pénalité. Si vous ne le faites pas, là, il y a une pénalité d'un 1% par mois du montant qui est excédentaire.
Mmh. OK.
Faut vraiment téléphoner à l'UDA, Valérie.
Oui, parfait. Ouais.
Merci. Laurier, bonjour.
Oui, bonjour à vous deux. Moi, je téléphone parce que j'utilise un logiciel pour faire mes impôts.
Mm-hmm.
Et puis là, j'ai terminé mon impôt provincial, je suis rendu un impôt fédéral. Puis là, avant de commencer, il m'offre d'acheter un supplément de 39,99 pour me protéger. N'affrontez pas l'Agence du revenu du Canada seule. C'est-tu quelque chose qui est... C'est-tu parce qu'il y en a un qui est plus requin que l'autre? C'est-tu avantageux de le prendre? C'est bizarre qu'il n'ait pas demandé au provincial, mais qu'il demande au fédéral.
C'est
mais
de la pub.
Je peux continuer quand même sans prendre le supplément de 39,99.
Mais ça, c'est une entreprise privée qui vous propose une
Non, non, c'est un logiciel qu'on achète au magasin, là, au bureau, en gros, une place comme ça.
C'est ça, c'est une compagnie qui vend le logiciel.
Ah oui, c'est ça, oui.
Ouais.
Est-ce que vous avez des revenus autres que du revenu d'emploi ou des revenus
non,
de retraite?
Non, j'ai rien d'autre. J'ai juste mon revenu d'emploi simple.
Okay. Bon, c'est cher, parce que 40$, c'est à peu près ce que ça coûterait faire faire ses impôts chez un comptable, non? Je sais pas comment
dire. Oui, c'est ça. Puis c'est parce qu'il y a acheté le logiciel, mais je me dis, des fois, on sait jamais. Je sais que l'Agence du revenu du Canada, ils ont tellement des choses spéciales, là, qui... Fait que là, s'ils offrent le supplément, moi, j'étais pour dire non, non merci, mais là, je me dis d'un coup, il faut juste...
Mais parce que souvent, les montants supplémentaires sont reliés à un logiciel qui vous permet, par exemple, de faire une déclaration d'un travailleur autonome ou un revenu locatif. Alors, la tarification, c'est un tarif de base et par la suite, ben il ajoute, ça coûte des frais supplémentaires si vous voulez produire des annexes ou en fait des annexes de travailleurs autonomes ou des choses comme ça.
Mais les logiciels, si André, en gros, là, ça vaut-tu la peine ou on n'est pas mieux de prendre un comptable?
Ben
évidemment, je pose la question à un comptable, alors c'est sûr que... Là, je vous ouvre la porte, André, pour que vous disiez, ben oui, prenez donc un comptable.
Non, en fait, faut faire attention. Les logiciels, ils fonctionnent super bien, là, majoritairement. Il y a quelques-uns, là, vous pouvez voir là, sur le site de...
Protégez-vous a fait des études.
Protégez-vous a fait des études là, des différents logiciels.
C'est ça,
et ces logiciels-là, on les a comme qualifiés. Mais normalement, les grandes firmes, les 3-4 premiers logiciels qui ont été choisis fonctionnent bien. Le problème, c'est que évidemment, ils fonctionnent en fonction de ce que vous lui donnez. Mm-hmm. Donc, ça, c'est souvent là la problématique. Mais ce que je reviens à votre question, c'est que la question est peut-être posée dans le sens de vouloir, est-ce que on veut vous vendre quelque chose que vous n'avez pas réellement besoin pour certains types de revenus? Là.
Oui. Mais quand c'est simple, qu'on a juste un revenu d'impôt, mettons un T4, puis on peut passer autre.
La question, c'est-tu pour pouvoir le transmettre par électronique qui vous demande ça?
Oh oui, je le fais par électronique, ça fait depuis ma quatrième année. Là.
Ouais, puis vous n'aviez pas à payer ce supplément-là avant?
Non, il l'offre de le prendre ou pas, mais je sais que l'Agence du revenu du Canada peut être assez stricte sur certaines choses qu'il n'offre pas. Mm. Je me disais peut-être bien qu'eux autres, ben ils l'offrent. J'étais pour m'essayer juste pour apprendre, là. Ça coûte 40$ pour l'apprendre. J'ai dit bon. Peut-être bien, je me dis peut-être qu'il faut pas.
Souvent, le supplément, c'est dû à... au type de revenu que vous avez. Donc,
merci, Laurier. Merci bien. Merci beaucoup. Il y a des gens qui posent la question, c'est qui les plus rapaces entre le fédéral et le provincial? Est-ce qu'il y a une réponse là-dessus, André?
Ni un ni l'autre.
En tout cas, il y a bien des Québécois qui
vous
me disent...
Vous pouvez continuer le reste.
Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'écrit, qui dit, c'est peut-être, on paye en retard parce qu'on se sent un peu trop floué. Et floué est mon terme. Celui qu'on m'a écrit, c'est un petit peu plus grossier que ça, mais je pense qu'il y a du monde qui trouve qu'il paye un petit peu trop d'impôts au Québec. Évidemment, c'est on le sait, hein? On nous le répète.
Hein, Isabelle, au Québec, il y a beaucoup de primes qu'on paie pour des avantages sociaux qui ne sont pas de l'impôt.
Ouais.
Quand vous arrivez à la section des avantages sociaux, qui est la page 4 là, de la déclaration, vous avez une panoplie de cotisations qui sont payées via la déclaration fiscale. Par exemple, si vous avez une entreprise, vous avez un nom que vous avez utilisé, une raison sociale, ben, il y a un frais à payer, ben, c'est la déclaration qui va vous allez le payer par là. Si vous êtes travailleur autonome, votre régime de rente du Québec va être payé par la déclaration fiscale. Si vous n'êtes pas assuré par une assurance médicaments, ben, vous avez une prime pour les assurances médicaments. Donc, beaucoup d'éléments qui composent des avantages sociaux qui viennent augmenter la note fiscale. Mais quand on regarde les impôts pour les impôts, là, ben, souvent, c'est à peu près équivalent. Là. Des fois, même au Québec, on va être moins élevé. C'est les avantages sociaux qui nous sont offerts et sur lesquels on va cotiser. Surtout si on est un travailleur autonome puis que vous avez atteint le régime de rente du Québec, c'est 5 500 $ environ qui s'ajoute à votre déclaration à payer. Donc, puis si vous avez, vous n'êtes pas inscrit à un régime santé, ben on rajoute un 640 $ de régime santé pour les médicaments. Et enfin, on se retrouve des fois avec 6 000 $ supplémentaires à l'impôt.
Voilà, ouais, c'est sûr. J'ai Catherine qui me dit que depuis qu'elle a un comptable, elle a un bon retour d'impôt. Avant, elle fonctionnait avec un logiciel. Elle les faisait elle-même. Et elle dit, ça m'est arrivé de payer de l'impôt alors que mes revenus étaient bas. Donc moi, depuis, ben, je fonctionne avec des comptables. Alors voilà. On s'arrête ici, très courte pause. On revient tout de suite après avec vos questions. Alors, on est en train de parler avec André Boulet, comptable professionnel agréé. Il est également fiscaliste. On parle du fait que les rapports d'impôts, ben, vous le savez, là, c'est le 30 avril, donc la date limite. Marie-Thérèse, bonjour, vous avez une question?
Oui, je veux savoir si je dois déclarer un revenu pour location alors que ça me coûte plus cher pour l'entretien. À l'impôt, j'ai reçu 2-3 versions, puis on m'a dit de considérer que c'est un montant comme dédommagement. Là, je suis perdu là-dedans. Mm-hmm.
Cette location-là, est-ce que vous le louez à quelqu'un qui est proche de vous?
Oui.
OK. C'est...
Je loue à mon fils. Okay. Mais je pourrais pas louer plus cher parce que c'est une maison dans le nord qui est située en arrière des montagnes. Difficulté à sortir de là, puis il y a beaucoup, beaucoup de réparations à faire.
Mm-hmm. En fait, lorsqu'on loue à un proche parent, okay. Ce qui est important, c'est qu'on le loue à la valeur qu'il vaut au marché. Lorsque c'est juste, comme on appelle, une accommodation, dans le sens que c'est là pour couvrir les frais, ou même des fois, ça ne les couvre pas au complet, ben les autorités fiscales vont considérer que la perte que vous réalisez ne peut pas être utilisée contre les autres sources de revenus. Maintenant, okay. Si vous êtes capable de faire la preuve que vous l'avez loué au même prix que vous auriez loué à une personne qui n'est pas proche de vous, ben vous pourriez avoir droit à une perte locative qu'on appelle, qui va se déduire, en fait, elle va venir réduire vos autres sources de revenus.
Mmh. Mais ça, c'est une question intéressante que Marie-Thérèse pose aussi et que j'élargis aussi, si vous me permettez, André. Merci, Marie-Thérèse, à toutes sortes de choses qu'on doit déclarer et puis qui autrefois était peut-être moins suivi par les gouvernements. Je pense entre autres à tout ce que les gens vendent sur eBay, sur Kijiji, sur des sites comme ça transactionnels. Évidemment, là, on parle de location de logements. Il y en a qui louent leur chalet maintenant via des plateformes. On pense entre autres à Airbnb, à chalet.com. Ça, faut pas oublier de déclarer ça parce que le fisc va être de plus en plus... et de plus en plus conscient là, qu'il y a de l'argent à aller chercher. Là.
Mmh. Bien, première des choses, la nouveauté, c'est qu'il y a des traces. Là. Tu sais, quand on est sur un site comme tel, on sait que les autorités fiscales ont des gens qui regardent ce qui se passe sur les sites et c'est souvent par là qu'ils vont aller voir par votre adresse est-ce qu'il y a eu des revenus de déclarer compte tenu que vous offrez votre maison ou votre chalet en location.
Mm-hmm.
Mais pour revenir à la question tantôt, techniquement, vous ne pouvez pas réclamer une perte locative étant donné que vous avez chargé moins cher à un membre de votre famille.
Mm-hmm.
Si vous louez à la valeur que ça vaut au marché, puis que ça occasionne des pertes, là, vous pourriez déduire.
Oui. Qu'est-ce qu'il faut suivre vraiment? Il nous reste 2 minutes, André. Quelles sont les grandes lignes là, que les gens doivent avoir en tête là, pour faire leur déclaration d'impôt là, au cours des prochains jours? Je pense que la fin de semaine va être une fin de semaine de travail pour beaucoup de monde. On va chercher les papiers, les formulaires, pas oublier ses reçus de médicaments parce qu'ils peuvent être déduits. C'est souvent les preuves hein, qui manquent souvent, puis des détails auxquels on ne pense pas toujours, mais auxquels on a droit comme déclaration.
Exact. Bien, première des choses, on a parlé tout au long de l'heure. Si vous ne pouvez pas payer, produire votre déclaration fiscale et vous pensez avoir un solde à payer, vous tentez de l'estimer et envoyer un paiement pour éviter la pénalité. Et à l'inverse, si vous n'avez pas les sous pour payer, et que vous êtes capable de produire votre déclaration fiscale, n'attendez pas, produisez-la quand même. Encore là, vous allez sauver des pénalités. Il y aura des intérêts, mais au moins, vous aurez sauvé, dès le départ, un 5 % de pénalité. Et si ça prend plus longtemps pour produire la déclaration fiscale, c'est 1 % par mois de plus. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Faites-le le plus rapidement possible.
Voilà.
Maintenant, le conseil que je donne, c'est tout au long de l'année, ramassez vos choses, puis mettez ça dans une chemise. Ça va être beaucoup plus facile que d'attendre à la fin de l'année, puis souvent en dernière minute.
Voilà.
Et il nous manque des papiers. On veut faire notre déclaration fiscale. Là, ça tombe bien. On a lundi, mardi peut-être pour obtenir des informations. Mmh.
Pour les gens là, qui sont au coincé avec des inondations et quelqu'un qui me pose la question, est-ce qu'ils vont avoir un petit délai, un petit sursis ou c'est le 30 avril pour tout le monde?
Oui, les deux agences ont envoyé cette semaine un avis qu'il y avait un délai qui avait été prolongé.
Bon.
Autant pour le paiement que pour la production.
Merci beaucoup, André Boulet, pour toutes ces bonnes informations. Merci bien.